France Inter.
La méritocratie, le culte du mérite. Je n'aime pas du tout, je trouve que c'est effectivement dans l'air du temps et que il y a un moment donné où je crois qu'on se rend pas vraiment compte à quel point les gens ont déjà du mérite de supporter ce qu'on leur demande de supporter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Une heure pour mieux saisir notre époque autour d'un terme dans l'air du temps. Aujourd'hui, un terme assez ancien, maintes fois brandi comme un emblème, un principe fondateur de notre démocratie, mais dont on peut légitimement se demander s'il a encore une réalité. Ce terme m'est revenu en mémoire l'autre jour alors que je songeais à l'épatante carrière dans le showbiz de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef. Ce terme, c'est bien sûr le terme méritocratie. Et oui, quel plus bel exemple pour ceux qui douteraient qu'on puisse en France s'élever socialement à la seule force de son talent que le destin du self-made man du gras. Né dans le dénuement, en grande couronne parisienne, d'un père charron et d'une mère circassienne, Cyril Lacarrière a su, par son génie, Marsagnac aussi, s'arracher au destin de cracheur de feu qui l'attendait. Alors bien sûr, quand il est entré sur le marché du travail, c'était le plein emploi dans cette France pompidolienne de tous les possibles, mais quand même, réussir à intégrer le FBI en ayant eu seulement 4 en maths au bac, puis rejoindre carrément la garde rapprochée de Bill Clinton, alors président des États-Unis, avant de se réorienter vers le journalisme et en devenir une des figures majeures, comme si en une vie il avait réussi à être tour à tour James Bond et Albert Londres. Le parcours laisse rêveur et il démontre que oui, la méritocratie existe encore. L'ascenseur social aussi, n'en déplaise, on le verra à notre invité qui estime pour sa part que, je cite, la méritocratie est la bonne conscience des gagnants du système. Alors qui a raison, moi ou l'invité? Vous avez une heure pour trancher. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Cet invité qui ose remettre en cause ma théorie selon laquelle la méritocratie nous a donné Cyril Lacarrière, le voici. Bonjour David Guilbeault.
Bonjour Mathieu Noël.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes haut fonctionnaire, pur produit justement de ce système méritocratique dont on va voir ensemble les limites. Vous avez fait partie de la promotion Orwell, de l'ENA. Vous avez écrit « L'illusion méritocratique » publié chez Odile Jacob en 2018, alors que vous êtes quand même a priori un exemple de que c'est pas vraiment une illusion la méritocratie. On va en parler. Le temps de vous présenter mon équipe, ou plutôt en ce lundi noir, ma moitié d'équipe. Si Quentin, lui, vigoureux garçon, fortifié dès l'enfance par l'ajout de calva dans son biberon, a survécu aux excès festifs du week-end, ce n'est pas le cas de Manon Mariani. Pour elle, ça a visiblement été la session chemsex de trop. La nouvelle est tombée ce matin, terrible, sur notre groupe WhatsApp. J'ai vu mon Cyril se prendre la tête dans les mains devant son écran d'ordi, car oui, à la veille de notre émission spéciale sur les boomers, il est important de souligner que Cyril a installé WhatsApp sur son ordi, sous Windows 98. Bref, il était 9h12 quand le vocal de Manon nous est parvenu. Vocal dont on a été obligé de vérifier l'authenticité, car à la première écoute, avec cette voix évoquant Maître Yoda dans Le Retour du Jedi, quand il est sur la fin, qu'il a 700 ans, on a cru à un canular de Jeanne Moreau. Mais là, Cyril a dit un truc pas con, il a dit « Elle est dead, Jeanne Moreau ». Alors on a été obligé de se rendre à l'évidence, ce n'était pas Jeanne, ni Maître Yoda, c'était Manon. Et cette fois, elle était vraiment au bout, au bout, au bout.
Ah bah, j'ai eu la fièvre toute la nuit, je n'ai plus de voix, c'est... Je me sens mais si mal, c'est un enfer. Genre vraiment, ça faisait longtemps là.
Mariani Manon, bien repose-toi, nombreux au miel tisane fais-toi et vite reviens-nous. Heureusement Quentin, vous êtes là et à part votre fidèle scoliose dégénérative, vous êtes quasiment en pleine forme. Bonjour Quentin.
En pleine forme, à peu près. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors Quentin, ça y est, le moment fort de l'année est passé pour vous. Vous avez pu parler F1 avec Julien Febrault, c'était vendredi. Tout le week-end, vous êtes repassé l'émission en boucle alors que par exemple, vous n'aviez jamais réécouté une seule fois notre numéro sur l'hydrodiplomatie.
Si, c'est avec Eric Orsenna.
Oui, vous vous en souvenez, mais bon, il faut dire que enfant, vous ne rêviez pas de devenir diplomate, mais pilote de Formule 1. Raison pour laquelle vous n'avez pas fait l'ENA, avec d'autres raisons annexes, comme le fait qu'un BTS, ça aurait été un petit peu chaud avec un BTS de prendre l'ENA. Bref, aujourd'hui, vous êtes aussi un bel exemple de l'efficacité de notre méritocratie, puisque vous êtes responsable micro-trottoir dans Zoom Zoom Zen. Alors, les gens dans la rue, est-ce qu'ils y croient encore à la méritocratie?
Juste avant, je ne vais pas m'excuser de ne pas avoir fait Sciences Po, ni même des grandes études, Mathieu.
Si.
Il faut dire qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des parents traducteurs à l'ONU, pour qui la question existentielle en arrivant à Genève fut quand même, où est-ce qu'on fout les bouteilles de Pétrus, dans l'abri anti-atomique par exemple. Voilà.
Pas du Pétrus.
De mon côté, c'est plutôt comment on fait pour aller à l'école avec la 205 qui démarre pas ce matin. Oui, un peu Cosette.
Oui, mais... un peu beaucoup.
Alors, oui, désolé, je n'ai qu'un BTS, David, mais au moins l'école dans laquelle je l'ai eu n'est pas fermée, elle. D'ailleurs, la rue n'est pas fermée non plus, toujours ouverte à n'importe quelle heure, qu'importe le sujet. Je suis venu vous parler de la méritocratie et à l'image de la Porsche dans le garage de Mathieu Noël, elle vous écœure.
Arrêtez de parler comme ça de ma Nissan Micra. tout le temps et de dire n'importe quoi. Aux alentours de 16h30, nous découvrirons une alternative intéressante à la méritocratie aujourd'hui, l'arnacocratie. Deux candidats font de leur mieux pour répondre à des questions qui rapportent chacune un point, sauf quand l'animateur décide que finalement c'était la gueule du client. Ne manquez pas le Zoom Zoom Test avec aujourd'hui un candidat mystère.
Parce que
je vous rappelle que Manon est en PLS avec une infusion de Doliprane devant des replays de la Starac. Qui la remplacera? Qui défiera Quentin? Et je cite cette personne, l'écrasera.
Ah oui.
Réponse aux alentours de 16h30. Et puis en fin d'émission, moment d'épectase humoristique avec la seule, l'unique Tata Galette. Marine Baousson nous livrera sa vision de la méritocratie. Alors déjà, David Guilbeault, est-ce que c'est pas un peu paradoxal, comme je disais, de dénoncer une illusion méritocratique quand on est soi-même le pur produit de ce système? Vous estimez à titre personnel que vous n'avez pas de mérite à être en haut de la pyramide?
Non, mais il n'est pas interdit d'avoir un regard un peu lucide
critique.
Sur sa trajectoire et sur le système par lequel on est passé. Donc moi, je trouvais intéressant justement, après avoir fait ce parcours donc méritocratique, d'être passé par les grandes écoles de la République, et ben de me retourner, de m'interroger un peu sur les dynamiques qui sont à l'œuvre, avec en plus cet avantage que, étant sorti plutôt en haut du classement de l'ENA, personne peut m'accuser d'être de mauvais poil ou plein de rancœur à l'égard du système.
Vous êtes sorti dans la botte, comme on dit?
Bah, il paraît.
Ouais. Oh, joli.
Il paraît.
Bravo.
Mais donc, l'intérêt, c'était aussi de faire un peu de cette analyse un peu réflexive pour se demander qu'est-ce qui se joue et pourquoi. Pourquoi c'est des gens comme moi qui ont réussi l'ENA et pourquoi d'autres l'ont pas réussi.
Pardon, mais c'est quoi la botte?
C'est les 10 premiers.
Comment, mais vous ne savez pas ce qu'est la botte?
Les 10 premiers
On qualifie de botte, traditionnellement dans le classement de l'ENA, c'est les places qui permettent d'accéder aux trois grands corps, c'est-à-dire le Conseil d'État, la Cour des comptes et l'inspection des finances, dans un ordre d'ailleurs variable selon les promotions. Mais voilà, en gros, les 10-15 premières places du classement.
Okay. C'est le top du top, Quentin.
La crème.
La crème de la crème. Face à vous, David, lui aussi, il est en haut de la pyramide. Du haut de ce corps ciselé dans les produits tripiers, presque 50 ans de journalisme média vous contemple. J'espère que vous n'avez rien à vous reprocher, car il a des dossiers sur tout le monde, rapport à ses années au FBI. Il a conservé tout sur microfilm. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors Cyril, je ne sais pas si je vous mérite, mais comme vous êtes là, dites-nous, vous avez réponse à ça. La méritocratie, d'où ça sort?
The Rise of the Meritocracy, livre de Michael Young, sorti en 1958. Michael Young, c'est un sociologue anglais, aucun lien avec un type qui vous propose d'en remettre votre cagoule. Bref, c'est Michael Young qui théorise pour la première fois ce qu'est la méritocratie dans son livre « L'ascension de la méritocratie ». L'histoire se passe dans l'Angleterre de 2034. Le personnage principal est aussi sociologue, un défenseur de la méritocratie, système qui a permis d'en finir avec les injustices sociales. Mais le récit est une satire. Et Michael Young, plutôt que de se défendre ce principe qui pourrait être noble, s'en moque et montre comment, poussé à l'extrême, il empêche finalement les réels effets de l'ascenseur social. Cette société de 2034 est en fait devenue rigide et ultra contrôlée. Sur le modèle de 1984 de George Orwell, The Rise of the Meritocracy est ce qu'on appelle une dystopie. Et si vous ne savez pas ce qu'est une dystopie, application Radio France, replay de Zoom Zoom Zen du 4 janvier.
Autopromo
bien placé.
Pour l'anecdote, en 2018, 60 ans après la sortie de ce livre, Toby Young, le fils de Michael, devenu journaliste, publiera un article titré « J'aime l'idée de la méritocratie autant que mon père la détestait ».
Mais Cyril, avant que le mot n'existe, le système avait déjà fait son apparition.
Effectivement, et c'était Napoléon qu'on doit. C'est durant l'Empire que des personnes issues des classes les plus populaires ont pu, presque pour la première fois, accéder aux très hautes sphères de l'État. Grâce au système instauré par Napoléon, les plus méritants accédaient à des rangs supérieurs et devenaient des notables. On parle d'ailleurs à cette époque d'une aristocratie méritocratique. La France fait figure de référence quand on parle de méritocratie, mais cette référence a-t-elle encore du sens? C'est ce que nous allons voir.
Merci Cyril. David Guilbeault, est-ce qu'au fond on n'est pas un peu dur avec notre méritocratie? Comme la démocratie, au fond c'est un idéal vers lequel on doit tendre. Personne ne croit vraiment qu'on vit dans une méritocratie pure et parfaite.
Le problème de la méritocratie à la française, c'est que le principe est très fort, en tout cas le concept est très fort et qu'on l'utilise quand même très souvent pour légitimer finalement le système dans son fonctionnement actuel. C'est un peu pour dire passez votre chemin, il n'y a pas de problème, tout va bien, tout est méritocratique. Or, on sait bien que les inégalités d'origine continuent à se reproduire par le système scolaire, que ces inégalités d'origine, on n'a pas encore trouvé le moyen de les réduire substantiellement et même peut-être attendre à s'accroître. Et donc, le problème du discours méritocratique, c'est qu'il est un peu une forme d'opium, si vous voulez. Ça endort la réflexion qui devrait porter sur des sujets plus centraux, comme la réduction des inégalités, de place, de salaire, de rémunération, c'est toutes ces choses-là. Et le discours méritocratique a tendance à occulter ça.
Et vous disiez donc dans un entretien au Monde que la méritocratie est la bonne conscience des gagnants du système. Qui sont ces gagnants? C'est des gens comme vous.
Oui, c'est un peu des gens comme moi, dans la mesure où mon père était CSP+, ma mère n'a pas le bac. Donc moite-moite. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, enfin, vous prenez les statistiques du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, vous voyez chaque année qu'il y a une surreprésentation des enfants de cadres, notamment dans les voies générales, par exemple, du second degré, puis ensuite à l'université, puis encore plus dans les classes prépa aux grandes écoles, et encore plus à l'ENS, par exemple, où la surreprésentation est vraiment très importante.
Mais Aléna, justement, bien sûr. J'imagine que les gens qui étaient dans votre promo étaient. Comment on peut les décrire ?
Socialement ?
Bah socialement, c'est oui, on peut dire que majoritairement, ce sont des héritiers, en tout cas, qui disposaient d'un certain capital économique et ou culturel. Moi, dans mon cas, ma famille n'avait pas forcément de capital économique, mais par contre, je considère qu'on avait un capital culturel qui m'a permis de maîtriser certains codes sociaux, qui expliquent très certainement le fait que j'ai pu réussir le concours de Sciences Po sans aucune formation spécifique en sortant du lycée, et ensuite l'ENA.
Alors David, vous avez entendu son doux assessor, pastille d'investigation qui fait l'honneur du service public, mais peut-être vous posez-vous la question, écrire le doux assessor, ça lui rapporte un salaire équivalent en temps plein, le mec ? Non, bien sûr David, Cyril Lacarrière ne fait pas que le doux assessor. En tant que rédac-chef de cette émission, il veille aussi à ce que chaque musique diffusée durant cette heure soit en rapport avec notre thème du jour. Voici donc non. Blame It on the Boogie des Jackson 5. Bien joué Cyril.
Zoom, zoom, zen.
La méritocratie est-elle devenue une vue de l'esprit, voire un écran de fumée par lequel les bénéficiaires du système endorment les autres? On en parle avec vous, David Guilbeault. David, un type dont j'ai tout de suite compris qu'il avait un avis sur la question quand j'ai lu son livre « L'illusion méritocratique » sorti en 2018. L'OCDE, David, a rangé la France parmi les plus mauvais élèves de la mobilité sociale. Ça veut dire que chez nous, ceux qui naissent pauvres ont tendance à le rester et ceux qui naissent riches, hein, coup de bol, le restent aussi. Comment on en est arrivé là? Est-ce que Bourdieu se retourne dans sa tombe?
Alors comment on en est arrivé là? C'est une très vaste question, je ne sais pas si je vais réussir à y répondre, mais ce qu'on sait, en tout cas, et les études de l'OCDE le montrent bien, c'est que le système scolaire, aujourd'hui, il échoue à compenser les inégalités d'origine, et notamment dès les premières années du cursus. Et un des facteurs probablement qui a contribué à ça en France, c'est le fait qu'on a très longtemps mis l'accent en termes budgétaires sur les années les plus tardives du cursus, le lycée, puis même l'université un peu plus, mais le lycée notamment. Au détriment des premières années de l'école élémentaire, même de l'école maternelle. Et là, bon, là, il y a un peu un changement de paradigme qui est en cours avec les dédoublements de classe, le renforcement des efforts sur les premières années, mais il faut faire encore plus. Il faut vraiment agir très fort, très tôt.
Et alors, pour expliquer pourquoi, c'est parce que dès les premières années, c'est là qu'il y a un désavantage pour les élèves, même les petits élèves, qui ont des parents qui ne sont pas, par exemple, CSP+, qui n'ont pas le même accès peut-être à la culture ou même tout simplement pour faire les devoirs à la maison. C'est là qu'on devrait mettre l'argent parce que c'est là qu'on crée les déséquilibres.
Ouais, c'est ça, c'est que dès les toutes premières années du parcours d'un enfant, la différence de contexte familial dans laquelle il grandit, les conditions dans lesquelles peut-être le travail scolaire peut se faire à la maison, ou même, le fait d'avoir des parents qui, par exemple, ne parlent pas français comme langue maternelle, bah forcément, ça va avoir un impact sur la manière dont l'enfant va pouvoir acquérir le langage, etc. Et ce sont des choses, des inégalités qui vont se cumuler et se renforcer au fil du temps. Et donc, si dès les premières années, votre élève, votre enfant part avec un handicap, forcément, dans les années ultérieures du cursus, ça va devenir de plus en plus dur de rattraper ce retard.
Mais c'est fou parce que l'école, c'était quand même le lieu, l'exemple de la méritocratie, et c'est en train d'entretenir les inégalités. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que, par exemple, il ne faudrait plus de devoirs du tout à la maison et que tout soit pris en compte par l'école pour que tous les gamins, entre guillemets, soient égaux?
Sur un pied d'égalité, oui, au moins.
Ouais, mais je pense qu'à ce moment-là, vous ne changeriez pas le fond du problème, qui est qu'en fait, aujourd'hui, le verdict scolaire étant tellement important dans le destin des individus,
donc c'est ça qu'il faut changer.
Voilà, forcément, les familles des enfants, et c'est bien normal, et chacun de nous le ferait et le fait pour ses enfants, sont portées à investir tout ce qu'elles peuvent de leur capital économique, culturel, pour favoriser la réussite scolaire de leur enfant. Donc ça veut dire des cours particuliers, ça veut dire l'été, des séjours linguistiques à l'étranger, ça veut dire des visites au musée, ça veut dire qu'on investit le champ scolaire à fond, parce que c'est ça qui compte. Donc peut-être qu'il faudrait dédramatiser l'enjeu scolaire pour donner aux gens la possibilité d'apprendre et de se construire dans des conditions un peu plus sereines.
Il faudrait aussi peut-être commencer par redéfinir la notion de mérite, puisque aujourd'hui en France, ce que vous dites, c'est qu'on l'associe beaucoup trop au résultat scolaire et au seul résultat scolaire. Le mérite, ça peut être bien d'autres choses. Mais comment on ferait concrètement, vous qui avez réfléchi au sujet, pour valoriser un mérite différent de celui, bête et méchant, des notes?
Oui, c'est vrai que si vous parlez aux gens, on va avoir le micro-trottoir, mais un des sentiments qui ressort quand on les interroge sur la notion de mérite, c'est quand même le sentiment qu'on me parle de mérite, mais moi, mon mérite, je travaille dur, je suis intègre, je suis dans une association, je suis solidaire avec mon prochain, machin, tout ça, on ne le valorise pas. On valorise que les bêtes à concours, les têtes bien faites, machin, et le système favorise ces profils de chiens savants, si vous voulez, c'est un peu dur comme expression, au détriment d'autres formes de mérite. Le problème, c'est que le système qui est l'école, il faut bien aussi qu'il fonctionne selon une hiérarchie de valeurs, si vous voulez, une hiérarchie de principes. Et en fait, c'est très difficile pour un système donné, l'école en l'occurrence, de valoriser plusieurs hiérarchies de valeurs, plusieurs formes de mérite. Donc en fait, la solution, c'est pas de demander à l'école de faire l'impossible, c'est de dédramatiser l'enjeu du verdict scolaire en permettant ensuite dans la vie, par la formation continue, par la réorientation, par l'acceptation que les gens peuvent changer de vie, partir dans d'autres directions. Moi, j'ai un exemple qui me revient toujours en tête, c'est que j'avais un copain de promo de l'ENA qui était néerlandais, qui était diplomate, qui lui m'a expliqué qu'il avait commencé par une formation professionnelle à l'issue du collège et que c'est que plus tard, à 30 ou à 35 ans, qui s'est réorienté pour entrer dans la carrière diplomatique néerlandaise. En France, c'est impossible.
On est d'accord, il faut avoir fait Sciences Po d'abord, l'ENA ensuite, on ne peut pas bifurquer.
C'est
effectivement. Un chiffre, plutôt deux, 68% des enfants dont les parents sont diplômés du supérieur le seront aussi, contre 17% seulement pour les enfants dont les parents ont un faible niveau d'études. Le philosophe et sociologue Didier Ribon dit que les grandes écoles ne sont pas un système scolaire, mais un système social. J'imagine que c'est un point de vue que vous partagez.
Oui, totalement. Oui, je vois même pas quoi ajouter. C'est l'aboutissement d'un système scolaire dont la fonction n'est pas d'accompagner tous les enfants vers l'apprentissage et la construction, mais de sélectionner pour les voilà, pour on sélectionne ce qu'on considère être les meilleurs pour les porter aux places d'élite de la société, et on considère que comme ça on construit voilà une élite convenable, et puis ceux qui n'en font pas partie, bon, quelque part c'est de leur faute et ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Moi, j'ai du mal avec cette conception.
Selon le sociologue Paul Pasquali, le premier vecteur de réussite, c'est l'héritage. Bourdieu disait qu'on vit dans une société d'héritiers. Donc, on fait quoi vis-à-vis de l'héritage? Ça, c'est une question importante. Et dans d'autres pays, il y a des systèmes très différents. Est-ce qu'on taxe l'héritage à 100%? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est le point de départ avec l'école.
Ce qui est marrant, déjà, sur la notion d'héritage par rapport à la méritocratie, c'est que l'intérêt de la notion de méritocratie pour la République, c'est quand même d'avoir réussi à légitimer un nouvel ordre social qui ne se fondait plus sur la transmission héréditaire des privilèges. C'était ça quand même l'intérêt de la notion de méritocratie. Reste qu'effectivement, aujourd'hui, l'héritage qui est transmis d'une génération à l'autre en termes de capital économique, de patrimoine et aussi de capital culturel à travers l'éducation familiale, bah cet héritage-là, il détermine, dans une grande partie en tout cas, et le terme détermine va forcément susciter les critiques habituelles, c'est pas mécanique, c'est pas automatique, mais c'est juste que toute chose égale par ailleurs, on va avoir plus de chances de réussir. L'héritage parental détermine dans une large mesure le destin social. Et donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Bah, c'est sûr qu'il faut se poser la question en termes de fiscalité, de redistribution, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux biens qui sont transmis sous forme d'héritage? Est-ce qu'il est normal qu'un enfant puisse naître avec directement un patrimoine qui vaut 4 millions d'euros? Je ne sais pas. C'est une question en tout cas qu'il faut se poser et que peut-être on ne se pose pas assez.
Alors lui, David, Bourdieu, Pasquali et Ribon, il était clairement plus à l'aise vendredi quand on parlait Niki Lauda, Ayrton Senna et Lewis Hamilton. Pour autant, Quentin est un vrai pro qui a certainement su donner le change dans la rue en simulant pour notre thème du jour la méritocratie, le même enthousiasme que pour Formule 1, l'engouement des Grands Prix. Alors dites-nous Quentin, la méritocratie, je me trompe ou les gens n'y croient plus?
Ah, c'est ce qu'on va vérifier. Je me suis rendu au cœur de Paris, place de la République, au petit matin, et ce monsieur que je vois au loin discuter avec une dame assise par terre, je lui demande ce qu'il vient de faire.
Ah, je viens de donner 10 euros à une dame qui vit dans la rue. Je lui donne toutes les semaines 10 euros.
C'est quoi votre prénom, monsieur?
Salomon.
Vous avez quel âge?
78.
Je lui fais lire le mot qu'on aborde aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
La méritocratie. Je suis d'accord pour ça. Pour le principe de la définition, je suis d'accord. On parle de travail, qu'on peut réussir dans le travail. Tout le monde a, ou presque, a l'occasion de travailler.
Mais est-ce que ça suffit pour s'élever socialement?
Non, il faut beaucoup de chance.
Ah, on m'a beaucoup parlé du facteur chance quand je lance le sujet de la méritocratie. Salomon me raconte son parcours.
Moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans. J'ai toujours aimé ce que je faisais, même quand j'étais manutentionnaire, chauffeur-livreur. Et après, j'ai eu la chance d'entrer dans une entreprise de textile et ça a marché pour moi.
Vous avez fini votre vie professionnelle à quel poste?
J'étais DG d'une entreprise et associé.
Incroyable, alors que vous avez commencé livreur.
Ah oui, j'ai eu que mon certificat d'études et j'ai commencé à 14 ans.
Donc vous y croyez?
Bien sûr, j'y crois fort. Le travail, c'est important, c'est un facteur d'équilibre, de progression sociale, de contact avec les gens.
Plus loin, il y a cette femme, elle porte une tenue de sport, leggings violets à motif, le bandeau, le casque audio pour se motiver, on essaye.
La méritocratie.
Ça vous fait sourire? Vous aimez pas?
Ah, j'aime pas du tout. Le culte du mérite. Je trouve que c'est effectivement dans l'air du temps et que il y a un moment donné où je crois qu'on se rend pas vraiment compte à quel point les gens ont déjà du mérite de supporter ce qu'on leur demande de supporter.
C'est la voix de Zoé que vous entendez, la trentaine, qui est psychologue pour enfants autistes. J'essaie de me faire quand même un peu l'avocat du diable. Quel est le problème à être optimiste, à se dire qu'on peut réussir professionnellement et socialement, même quand on vient d'un milieu défavorisé?
Mais pour avoir un point de mire, il faut avoir un tout petit peu d'espace cognitif disponible. Il faut pouvoir sortir de là, c'est-à-dire que quand vous faites métro, boulot, dodo à outrance, on ne peut pas avoir de loisirs, on n'a même pas le temps de lire tellement on est épuisé. Comment est-ce qu'on envisage ce côté méritocratie?
Alors qu'il sort de chez lui, les cheveux en brosse, pantalon beige, manteau beige et son écharpe blanc cassé, j'arrête ce jeune homme. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Mathieu.
Mathieu, vous avez quel âge?
30 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? C'est quoi votre métier?
Je suis dans la communication. Ouais, je suis au ministère de l'économie.
Oh, rien que ça. Bah oui, l'équipe de la com de Bercy. Cette même équipe qui n'est pas à l'abri de nous ressortir le renouveau, c'est Bruno. Ou Bruno, c'est pour bientôt. Qui sait? Mathieu me confie d'ailleurs que de son côté, il est issu d'une famille aux parents sans diplôme. Je lui présente le mot qu'on décortique aujourd'hui dans l'émission.
La méritocratie. C'est utilisé pour justifier les inégalités aujourd'hui dans notre société. Et que c'est en partie illusoire.
Vous y croyez pas, vous, à ça?
En partie, mais on va dire faudrait estimer un pourcentage de mérite dans chaque réussite, mais je pense qu'on est assez loin de 100%.
À creuser donc. Mais alors, est-ce que pour lui, l'ascenseur social, ce fameux ascenseur social, est-ce qu'il est bloqué ?
Oui, ben après, statistiquement, on voit que c'est bloqué. Je crois que les chiffres montrent qu'il faut 6 générations pour... Il y a tout un tas d'indicateurs qui montrent que c'est l'ascenseur social est assez bloqué. Après, une des bonnes questions à se poser, c'est est-ce qu'on est plus performant en ignorant ces chiffres-là ou non ? Par exemple, si on va dans un quartier défavorisé et qu'on révèle une statistique factuelle aux enfants en disant « vous avez tant de chances de moins de réussir que quelqu'un qui serait du 6e arrondissement, par exemple », qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on aide vraiment ces enfants-là en leur disant la vérité ? Ou est-ce qu'on ne leur met pas des barrières dans les roues, déçoit pas d'avance, on les démoralise pas d'avance ?
Et si finalement, ne pas se lancer dans la vie en toute connaissance de cause était le meilleur moyen de changer les choses ? En tout cas, dans la rue, la question se pose.
David Guilbault, on vient d'entendre ses réactions dans la rue. Alors ça, c'est assez gratiné. C'est-à-dire que l'idée, ça serait de plus dire qu'on a de pas lire votre livre, par exemple, pour dire la méritocratie, ça fonctionne. Lancez-vous, on verra bien. À un gamin des cités, par exemple, qui a statistiquement beaucoup beaucoup moins de chances qu'un gamin du 6e qui était à l'école alsacienne de réussir.
Ouais, c'est extrêmement intéressant ce que disait Mathieu dans le micro-trottoir. Et c'est une vraie question
sociologique.
Sociologique.
Et c'est une étude, quoi.
Mais en un sens, la réponse à la question, elle est dans l'histoire récente de la France, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a raconté à tout le monde que c'était possible de réussir par la seule voie méritocratique. Bah, quand les jeunes à qui on a raconté ça se heurtent en fin de parcours au mur, auquel ils continuent de se heurter parce que voilà, il y a des codes qu'ils maîtrisent pas, ils n'ont pas été bien accompagnés, ils n'ont pas été bien conseillés, bah là, la promesse non tenue, elle suscite du ressentiment et oui, de la rancœur. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux être lucide et honnête sur l'état des lieux.
Quentin ?
Est-ce que la méritocratie atteint rapidement des limites géographiques ? On parlait là des banlieues, mais je pense aussi aux régions, aux villages, à la ruralité. Est-ce que ça s'accorde bien avec la géographie et la méritocratie ?
Bah, il est évident que si vous avez une plus grande proximité avec l'agglomération parisienne, vous avez sans doute plus de chances d'avoir accès, ne serait-ce qu'à la connaissance des formations qui sont les bonnes à suivre. Moi, j'ai grandi en province. Pour moi, Sciences Po Paris, l'ENA déjà je connaissais pas. Sciences Po Paris, c'était un concept dont on m'a parlé seulement en terminale. Et pour moi, l'horizon, c'était la fac de Rennes 2.
Alors je trouve ça très intéressant ce que vous dites, David, parce que j'ai vécu à ma toute petite échelle, puisque je ne suis pas allé aussi loin dans mes études que vous, mais la même chose, c'est-à-dire que j'étais en province. L'idée même qu'un élève qui a, même s'il a des bons résultats, aille présenter Sciences Po Paris, dans mon cas, était lunaire. C'est-à-dire que mon prof principal qui me poussait en tout m'a dit « Non, mais alors, nous emballons pas, Sciences Po Grenoble, on va tenter. » C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une part d'auto-censure des gens, en fonction de leur milieu social, de se dire « Ça, c'est pas pour moi. » Or, alors que les filles, les enfants qui sont dans le 6e arrondissement, pardon, d'axer l'émission sur eux, mais eux, pour eux, c'est tout à fait naturel. Moi, à Sciences Po, j'ai rencontré des gens, pour eux, c'était tout à fait... Moi, j'ai ouvert le champagne quand j'y étais. Ouais. Les gens, ils disaient là, bah oui, on était à Sciences Po, après le bac, on va à Sciences Po, c'est normal. Mais, et c'est ça, la différence.
Mais parce que d'ailleurs, si vos parents habitent dans le 6e arrondissement, il y a de fortes chances qu'ils aient quand même, soit eux-mêmes, soit leur entourage proche, fait Sciences Po, fait ces écoles-là. Mais c'est vrai ce que vous dites, Mathieu, sur le fait que, quand on grandit en province, le champ des possibles n'inclut absolument pas ces choses-là. Il y a de l'autocensure de la part, par exemple, des professeurs, de l'entourage. Ça vaut pour le facteur géographique, ça vaut pour le facteur social. Et c'est parfois des gens très bien intentionnés qui vont dire non mais on va pas bien pousser sûr un tel dans une voie où il va se planter, par
exactement
exemple sur l'orientation d'un jeune, on va dire non mais lui il faut qu'il passe un bac pro parce qu'il va pas y arriver s'il va en seconde générale. Bon, c'est un énorme problème et c'est le sens d'ailleurs de toutes les initiatives qui sont réelles et qui sont positives, qu'on voit de création de classes prépa talent en province pour l'ENA, pour divers concours administratifs qui visent à, justement à aller chercher
décentraliser.
Voilà, donc ça c'est bien, il y a quand même des initiatives qui sont menées dans ce sens-là. Quentin.
On a entendu aussi la colère de Zoé, cette psychologue pour enfants autistes, elle dit le point de mire, il faut pouvoir le percevoir cognitivement déjà, parfois on n'a même pas l'espace de cerveau disponible pour lire. Est-ce que la méritocratie c'est pas un sport de riche avec moins de charge mentale, donc un sport d'homme?
Mais c'est clair. Si vous êtes parent, comment vous voulez accompagner efficacement votre enfant dans sa trajectoire scolaire si votre vie quotidienne, votre travail, vos contraintes du quotidien ne vous en laissent pas le temps ? Il est évident qu'un CSP+ a beaucoup plus de temps de cerveau disponible, si j'ose dire, pour faire les bons choix à la place de son enfant. Là, je vois en ce moment, il y a tout le drame que vivent les parents et les élèves sur Parcoursup, sur le choix des formations, sur comment on fait ses vœux, son classement, etc. Bah pour accompagner son enfant efficacement là-dedans, il faut avoir le temps et le capital culturel pour le faire.
Vous ouvrez la brèche Parcoursup. Est-ce que Parcoursup, c'est l'ennemi de la méritocratie ? Parce que c'est un petit peu de la chance, un petit peu de la roulette aussi.
Ça a l'air. Honnêtement, je ne vais pas m'aventurer à faire des jugements à l'emporte-pièce sur Parcoursup parce que ça a l'air complexe. Il semble que ça ait amélioré certaines choses d'APB, mais il semble aussi qu'il y ait quand même énormément de biais et de choses un peu
problématiques. Un dernier mot dans cette partie, parce qu'on a mis une question. Est-ce que ça fonctionne mieux ailleurs, la méritocratie? Les Américains qui accèdent à l'université, ils vont soit parce que leurs parents peuvent payer des sommes importantes, soit parce qu'ils contractent des prêts, soit parce qu'ils sont bons en basket. Est-ce qu'on peut vraiment se dire que c'est mieux ailleurs?
Je ne sais pas si c'est la question qu'il faut se poser. C'est est-ce que d'autres font différemment que nous? Et moi, je crois que certains pays européens, le Danemark, même l'Allemagne, font des choses différentes qui permettent aux gens d'avoir une plus grande fluidité dans leur trajectoire de vie.
Comme vous l'avez cité avec votre exemple de votre ami qui a intégré l'ENA.
Exactement, l'exemple néerlandais. Des gens qui peuvent se réorienter. Et donc, du coup, on n'est plus sur ce psychodrame de la formation initiale qui
détermine sclérose tout.
Un peu tout. Mais en tout cas, dans le micro-trottoir, le facteur chance, c'est intéressant. Ouais. Salomon a parlé du facteur chance. Ça m'a beaucoup intéressé quand il a dit ça. Parce que d'un côté, il est partisan de la méritocratie. Et en même temps, il reconnaît que finalement, c'est pas que le travail. Et ça, on peut quand même avoir tous la lucidité de l'admettre. Dans les parcours de vie, il y a quand même une grande part de chance et le fait que personne réussit tout seul, et que c'est aussi les rencontres, les hasards de la vie qui font qu'on a la chance. Ah bah, tenez, vous passez le concours de l'ENA, et bah là, à un quart de point, vous êtes admis ou vous n'êtes pas admis. Et bah, ça, c'est quand même un petit peu de la chance.
On continue à interroger la réalité de la méritocratie dans Zoom Zoom Zen avec notre invité David Guilbeault, auteur de L'illusion méritocratique. On va lui demander notamment si c'est une bonne idée de supprimer l'ENA ou bien juste une autre idée démago. Comme il a lui-même fait l'ENA, ça sera sûrement intéressant. Mais d'abord, une chanson pour nous pousser à nous élever socialement à la seule force de notre talent, Lift Me Up. Elle a fait la mi-temps du Super Bowl, la mi-temps des Oscars hier soir, mais là, c'est un moment encore plus important dans sa carrière puisqu'elle va faire la mi-temps de Zoom Zoom Zen. C'est un beau cadeau qu'on lui fait, j'espère qu'elle sera à la hauteur. Voici Rihanna sur France Inter.
Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et voilà que nous arrivons au cœur du réacteur méritocratique de Zoom Zoom Zen, le quiz qui, jour après jour, va permettre en fin de saison de savoir qui de Manon ou Quentin continuera avec nous en saison 2 et qui finira dans les jardins du Troca à vendre des tours Eiffel en plastique. Seulement voilà, aujourd'hui, je vous le rappelle, Manon est absente en cause d'une maladie mystérieuse qu'elle aurait contractée ce week-end lors d'une soirée Playboy et qu'on appellerait Goldub. Étant impossible que Quentin joue seul, il est donc rejoint par une candidate surprise et pas des moindres puisqu'on accueille avec un peu d'avance Marine Baousson.
Mais bonjour. Bonjour, Manon, Marine, je merci. Pense à toi, mais en même temps, je suis un peu contente,
oui,
on va pas se mentir.
Vous sautez sur l'occasion. Marine Baousson, bonjour. Aujourd'hui, un quiz consacré à ces personnalités qui démontrent que la méritocratie fonctionne encore. Soit parce qu'ils ont réussi de par leur talent, soit parce qu'ils se sont plantés de par leur absence de talent. Marine, Quentin, top. C'est un patronyme qui fut longtemps synonyme de réussite capitaliste. Un patronyme qui évoque un empire brassant des milliards, mais qui est parti en fumée en quelques années. Pardon ?
Non, c'est pas Lagardère ?
Quentin, je vais devoir vous demander de vous gendarmer un peu, de ne pas dire n'importe quoi devant moi, qui vient d'Europe 1. Vous écopez, c'est pas assez sévère, de 15 points de pénalité attaque personnelle contre un ami intime de l'animateur. La prochaine fois, c'est expulsion du plateau. Non. Un patronyme qui évoque un empire brassant des milliards, mais qui est parti en fumée en quelques années seulement suite à la mauvaise gestion d'un héritier. Je faisais évidemment référence, Marine.
Au Bourbon ?
Non. À qui, Marine ?
Ah, au Vanderbilt !
Mais oui, bien sûr, bravo Marine ! Voilà quelqu'un pour Quentin !
Mais attendez, elle a regardé sur sa main, qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre main ?
Montrez-moi votre main !
Mais il n'y a rien écrit sur ma main !
D'accord.
Oh, ce jeu est truqué, alors
mais
ça
non,
c'est un scoop !
C'est truqué !
Incroyable !
Mais j'ai quand même foiré.
Et oui, c'est là vous avez réussi, c'est ça qui est beau, c'est bon. Magnifique. C'est et pour ça, je vous mets un point en plus.
Vous êtes voilà. Comme ça depuis septembre.
Voilà, en tout cas, Quentin, quelqu'un qui n'a pas peur de porter la plume dans la plaie. Oui, quand il a vu que ses héritiers avaient fait de son empire, Cornelius Vanderbilt, le roi de la vapeur, a dû se retourner dans sa tombe. Flashback au début du 19e siècle. Nous sommes en 1805. Thomas Jefferson vient de prêter serment à Washington. Son garde du corps, Cyril Lacarrière, déjoue les tentatives d'attentat des Indiens. Et un petit bonhomme, parti de rien, ayant arrêté l'école à 11 ans, soit 3 ans avant Quentin, va devenir en quelques années l'homme le plus riche, non pas des États-Unis, mais du monde. Mania des chemins de fer, Cornelius Vanderbilt sera au sommet de sa réussite, plus riche que quoi ? Puisque je viens de vous dire que plus riche que qui est une question qui n'avait pas de sens, vu qu'il était plus riche que tout le monde. Alors selon vous, au sommet, Cornelius Vanderbilt était plus riche que quoi ? Que la banque suisse la plus riche de l'époque ? Que le trésor américain de l'époque ? Ou que Nagui ?
Oh, c'est chaud !
B. Trésor américain.
Vous avez répondu c'est chaud qui n'est pas une réponse. C'est, non, ni A, ni B, ni C.
Moi, je dis B aussi.
Oui, mais vous l'avez
le trésor américain.
C'est une bonne réponse. Ah oui, mais... et oui, rapporté au cours actuel, Cornelius pesait environ 185 milliards de dollars. Hélas, vous l'avez compris, ses enfants n'avaient pas son sens des affaires. Il a fallu seulement 48 ans à un de ses héritiers pour se retrouver totalement ruiné. Top ! Moi non plus, je n'ai pas enfanté que des prix Nobel, et pourtant un prix célèbre porte mon nom. Un nom tout aussi célèbre que Vanderbilt, même si j'ai bâti ma fortune dans un autre domaine. J'ai été un modèle, j'ai suscité bien des vocations. Par exemple, si Cyril Lacarrière a finalement délaissé la protection rapprochée pour se lancer dans le journalisme, c'est grâce à moi.
Bernard Tapie. C'est par rapport à Cyril que je dis ça.
Attends, c'est le nom d'un prix, il n'y a pas de prix qui s'appelle
si vous,
Tapie.
Non, pas encore. Si vous ne m'avez pas encore identifié, peut-être y parviendrez-vous si je vous dis que je suis arrivé aux États-Unis en 1864 depuis la Hongrie, d'où mon nom au connaissance. Pulitzer Joseph. Pulitzer, bonne réponse de Quentin.
Franchement,
une blague, une bonne réponse.
Pauvre Joseph, dont le petit-fils, moins futé que papy, a réussi à ruiner la famille. Comment ? En investissant tout l'héritage dans une plantation d'agrumes de 300 000 hectares.
Ah oui.
Tous les arbres fruitiers ont contracté une maladie.
Ah oui.
Banqueroute. Morale de l'histoire, ne jamais investir tous ses ronds dans une plantation d'agrumes. Top ! Marine, vous connaissez Michael Douglas ?
Pas personnellement.
Mais vous le connaissez quand même.
Oui.
Quentin, vous connaissez Kirk Douglas ?
Oui, son père.
Question de génération, évidemment, parce que vous aimez tout ce qui est vieux. Alors, en mettant, sauf ma mère, alors en mettant en commun vos connaissances, vous devriez réussir à répondre à la question suivante. Qu'a fait Kirk Douglas, d'a priori pas sympa, à Michael Douglas, son fils, mais qui, in fine, s'est avéré quelque chose d'éminemment positif ?
Bah, il a déshérité.
Ah oui, parce qu'il était endetté.
Alors là, Marine, on voit que vous n'avez aucune expérience du quiz, puisque vous avez répondu avant que je donne les choix.
Oui, c'est honteux.
Est-ce qui en plus il y avait une vanne au milieu.
Alors allez-y, refaites comme si de rien n'était.
Je vais faire une chose que seul notre rédacteur en chef se permet de faire dans cette émission à l'antenne.
Me virer.
Je vais bouder. Marine, vous ne marquez pas le point.
Ah, comme toute
réponse C, c'était la réponse C. Il l'a déshérité. Victoire par défaut de Quentin. Sachant que Kirk était un des acteurs les plus bankables d'Hollywood, qui pesait plus de 60 millions de dollars. Michael aurait pu l'avoir mauvaise, mais c'était précisément pour qu'il se bouge.
Ah oui.
Et ça a marché. Aujourd'hui, Michael est à la tête d'une fortune de 300 millions de dollars. Victoire! Victoire.
Il avait moins 15. Victoire de Marine.
Victoire de Marine.
Et oui.
Victoire de Marine. Je suis désolé, Quentin. Je suis désolé. C'est comme ça.
C'est pas la méritocratie.
Mais notre invité vous dira, si vous aviez lu le livre de David Bessard, vous préférez regarder des grands prix de Formule 1. Si vous aviez lu le livre de David, vous sauriez que la méritocratie n'existe pas. C'est un ancien de l'ENA qui vous le dit. L'illusion méritocratique, c'est le titre de votre livre. Et vous êtes notre guide aujourd'hui sur les sentiers tortueux de cette méritocratie. En réponse à la crise des gilets jaunes, on s'en souvient, notre président Emmanuel Macron avait décidé de supprimer l'ENA. Qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui?
Ouais, je sais pas, ma réaction c'était que c'était un petit peu à côté de l'enjeu.
Du sujet.
Que probablement l'objectif premier c'était de marquer quelques points politiques parce que ça reste un symbole fort. Hein, le rapport des Français à l'ENA est toujours un peu compliqué parce que d'un côté on déteste les énarques, mais d'un autre côté parfois on a le sentiment que tout le monde aimerait bien que quand même son gamin réussisse une grande école comme l'ENA. Je dis pas que l'ENA, il n'y a pas que l'ENA. Mais bref, quand on annonce je supprime l'ENA, on donne l'impression de secouer très fort le cocotier et de faire un grand changement alors qu'en fait, on a créé l'INSP qui est dans les locaux de l'ENA avec les concours qui menaient à l'ENA, le cursus de l'ENA.
C'est un enfumage.
Bon, voilà. Je sais pas si c'est de l'enfumage, mais en tout cas, il faut s'intéresser plutôt aux évolutions en cours côté ENA dans la scolarité, dans les concours de recrutement. Ils ont créé un concours spécialement axé pour les boursiers qui sont dans les classes prépa talent, qui vise justement à permettre à des jeunes qui sont plus éloignés de ces concours-là de les préparer et de les réussir. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est des mesures qui ont plus de sens. La suppression de l'ENA en elle-même, moi, le symbole, par ailleurs, je l'aimais pas beaucoup parce que ça restait quand même un acquis de la République de Jean Zay et puis ensuite de Gaulle et Debré à la Libération. Bon, voilà, c'est dommage de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain, quoi.
Et quand on vous écoute, on se dit que c'est finalement tout un système à repenser. Vous avez des mots très durs dans le livre. Vous parlez de cette prison intellectuelle qu'est l'élitisme républicain. C'est devenu une prison, quoi.
Pour moi, oui, il y a cette manière d'envisager la société comme finalement une sorte de compétition, un jeu à somme nulle dans laquelle tout le monde doit un peu jouer sa carte et défendre son bout de gras et puis essayer d'arriver au sommet de la pyramide. C'est très en ligne d'ailleurs avec un discours très actuel sur la performance, le récit de soi, la construction de son projet, comme si chacun réussissait tout seul et malgré les autres et sur le dos des autres. Bon, on sait bien en réalité que ça marche pas comme ça. Et du coup, ces concepts dans lesquels on continue de se débattre un peu de méritocratie, etc., ça nous enferme dans une vision très pyramidale de la société selon laquelle il y a quelques places d'élite qui valent d'être poursuivies avec toute l'énergie qu'on peut y mettre. Et puis pour ceux qui arrivent pas à les atteindre, tant pis pour eux, quoi. Ils ont une moins bonne valeur, ils ont une valeur moins élevée que les autres. Moi, je trouve un peu dommage de vivre dans une société comme ça.
Quentin. Vous allez me dire si je me trompe, mais c'est un peu le récit, enfin, c'est un petit peu le discours du gouvernement actuel, quand même, qui est basé sur la méritocratie. À l'image de l'allocution d'Emmanuel Macron lors de ses vœux le 31 décembre dernier, où les mots travail, engagement sont revenus des dizaines de fois. Avec tout ce qu'on vient de se dire pendant cette émission, est-ce que l'emploi du mot méritocratie ne traduit pas une déconnexion avec la société actuelle? Un mot vain, politisé, qui pourrait même avoir un effet contre-productif de défiance?
Alors, il y a plusieurs choses dans tout ça. L'emploi par le président de la République en l'occurrence, mais par les gens qui détiennent effectivement les positions sociales les plus élevées aujourd'hui dans la société, du terme méritocratie, ça dénote aussi peut-être une incapacité à se rendre compte que la méritocratie, ça marche pour certains, mais pas pour d'autres. Effectivement, pour quelqu'un comme Emmanuel Macron, mais c'est pas personnel, c'est en l'occurrence, si vous êtes né dans une famille plutôt aisée, avec des parents médecins, qu'on vous met dans l'enseignement privé, etc., oui, statistiquement, vous avez plus de chances que la méritocratie marche pour vous. Mais en face, vous avez les gens à qui ça fait quand même des années qu'on sort un discours sur la valeur travail, le fait que si tu travailles, tu vas t'en sortir, ça ira mieux. C'est la campagne de Sarkozy en 2007. Bon, ouais. À l'époque, ça avait très bien marché.
Ça a 15 ans.
Mais voilà, ça a 15 ans. Et depuis 15 ans, les gens se sont peut-être aussi rendus compte que cette promesse-là, en fait, elle n'était pas tenue. Et beaucoup de gens, enfin, individuellement, tout le monde est attaché au fait qu'on puisse être récompensé de son travail et que ce soit ça qui soit valorisé. N'empêche que dans la réalité aujourd'hui de la société, c'est pas le cas. Et si on repense à la crise Covid, il y a eu beaucoup de discours sur les travailleurs essentiels, sur les gens hyper importants, les aides-soignants, les livreurs, les caissiers de supermarché. Et puis aujourd'hui, on disait, à l'époque, on disait, tous ces gens-là, ils doivent être au cœur de la société de demain, ça sera pas comme avant, ça va changer. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ces gens, ils sont mieux payés qu'avant aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont des meilleures conditions de travail? Est-ce que leurs conditions de vie sont améliorées? Non. Et les gens, ils le voient très bien.
L'autre question qu'il y a derrière ce que vous dites, que je me pose personnellement, c'est Emmanuel Macron ou les gens qui travaillent avec lui, est-ce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent sur la valeur travail, sur tout ça, ou est-ce que c'est juste un écran de fumée qui parce que ça sert leurs intérêts, si vous voulez, ou est-ce que c'est sincère, pourrait y avoir une forme de sincérité, est-ce qu'on pourrait penser au fond que la méritocratie, vous pensez qu'Emmanuel Macron, lui, quand il est chez lui le soir dans son lit, il se dit non mais la méritocratie c'est bien, tout le monde a une chance et on va y arriver, ou il se dit comme vous en fait, bien que tout le monde en bénéficie
On se moque de personne ici, je crois vraiment que le président de la République et les gens qui tiennent ce même discours sont sincères et ils croient sincèrement avec de bonnes intentions, mais parce qu'il y a aussi un biais intellectuel qui fait qu'on est quand même plus naturellement porté à croire aux choses qui consolident un peu le sentiment de légitimité qu'on peut avoir. Et tout le monde... Enfin, moi aussi, je veux dire, ça serait quand même plus simple de considérer que le système marche très bien. Ah bah regardez, moi j'ai travaillé. Sauf que moi, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont autant travaillé que moi, mais qui, eux, n'ont pas réussi. Et moi, c'est de là que vient cette interrogation aussi. C'est pourquoi des gens comme moi réussissent, alors que le type qui a travaillé autant juste à côté, qui a fait la même chose, il réussit pas. En réalité, on en revient au facteur chance dont parlait Salomon tout à l'heure. Et donc, puisqu'on peut pas maîtriser ce facteur chance, est-ce qu'il faut pas penser à un système un peu différent, où il n'y a pas des couperets qui tombent et qui déterminent avec des écarts aussi grands les destins sociaux?
Quel facteur chance?
Bah alors, ça peut être très divers, ça peut être une rencontre au bon moment, ça peut être encore plus prosaïquement, vous passez le concours et puis le jour dit, vous tirez le bon sujet. À coup de peau, vous l'aviez révisé la veille.
On sent que ça a été votre cas, Léna.
Et donc, issu de quel type de... Bah, le système, quoi. Comment on peut avoir
vous
un.
Vous voulez qu'en une minute, il nous reste deux minutes, vous voulez qu'il repense tout
comment
le système
mais comment on l'améliore?
Non, mais voilà, si la question c'est maîtriser le facteur chance, moi je pense qu'on ne le peut pas. La société est complexe, il y a de multiples choses qui se passent dans la vie des individus. Il faut accepter qu'il y a cette part d'incertitude et presque d'irrationnel, quoi, dans la trajectoire sociale des individus. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que, ah bah, vous vous êtes planté sur la formation initiale, mais c'est pas grave, il n'y a pas un tel écart avec le type qui a réussi le bon diplôme, machin. Et plus tard, dans votre vie, vous allez pouvoir revenir, si vous avez envie, d'ailleurs, si vous en avez envie, vous pouvez très bien ne pas en avoir envie et rester dans une autre voie. Et l'enjeu, c'est aussi les écarts entre les trajectoires sociales, puisque si vous choisissez une voie pro aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi que votre rémunération ne soit pas 15 fois inférieure à quelqu'un qui aura choisi une voie de grande école ou d'école d'élite. C'est aussi ça qu'il faut redire, parce que des chercheurs qui sont bien meilleurs que moi l'ont bien dit, on peut bien faire toute l'égalité des chances qu'on veut sur une génération donnée. Si l'égalité des places n'est pas assurée, c'est-à-dire s'il n'y a pas des écarts suffisamment réduits entre les places sociales, ben en fait, dès la génération suivante, forcément, les bénéficiaires de l'inégalité de la génération précédente vont pouvoir donner tout leur capital à leurs enfants, et puis on va remettre par terre une égalité des chances qui n'aura tenu qu'une génération.
Marine ?
Vous disiez qu'il faut repenser ce monde-là, il faut repenser. Mais ce serait quoi la solution aujourd'hui ? C'est-à-dire, vous dites, on repense. Ok, pour vous, idéalement, on l'a fait comment cette société alors ?
Mais c'est tout le défi de... On ouvre des questions, mais en fait, personne n'a de réponse clé en main à fournir. On n'a pas un modèle de société alternatif à donner. Ce qu'il faut, c'est chercher dans tous les domaines de la vie des individus comment on peut introduire des moments où on donne plus de chance aux gens. C'est pour ça que je parlais de la formation continue ou des réorientations professionnelles. C'est faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui, avec un CV qui n'a rien à voir a priori, puisse postuler à un poste et qu'on essaie de le juger pour comprendre vraiment quelles compétences il a développées dans ses anciennes fonctions, même si ça n'a rien à voir avec le domaine où il postule, mais pour le valoriser et pas juste traiter les gens en fonction de leur statut et des étiquettes qu'ils ont sur leur parcours.
Pour des exemples concrets, je crois qu'il faut se tourner vers des exemples nordiques, dans des pays nordiques, au Danemark, où mobilité sociale est plus forte parce qu'il y a plusieurs passerelles à différents moments de la vie. C'est un peu ça l'idée.
Et où, je crois, existe un vrai droit à la formation continue qui est beaucoup plus effectif que celui qui existe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez quand même faire valoir votre droit à la formation continue, c'est quand même pas extrêmement facile. Alors, c'est très facile de faire des arnaques sur le droit à la formation, ça, il y en a beaucoup. Mais par contre, pour faire valoir votre droit à la formation, c'est quand même un peu un parcours de combattant.
Alors, David, vous avez déjà eu un avant-goût de son talent quand elle a plié ce pauvre Quentin dans le quiz tout à l'heure. Marine Baousson va revenir nous livrer cette fois son billet d'humeur sur la méritocratie. Et exceptionnellement donc, pour les auditeurs qui nous rejoindraient à peine, pas de chronique réseaux sociaux, je le rappelle, Manon Mariani étant vocalement indisposée.
Je me sens mais si mal, c'est
Bisous, bisous. Toutes nos pensées vont évidemment à son ORL. Et nous, on se retrouve juste après Miossec, mes voitures sur Inter.
Lâché en plein.
D'habitude si rieur, rira-t-il durant la chronique de celle qui vient de l'humilier dans le quiz? Certainement pas, il va faire la grève des rires. Marine Baousson, elle aussi a un point de vue sur notre sujet du jour, la méritocratie.
Mathieu, récemment, j'étais avec ma copine Carole et elle m'a dit « En fait, les gens qui disent « quand on veut, on peut », bah c'est des gens qui peuvent. Et moi j'ai toujours dit quand on veut on peut. Jusque-là j'étais vraiment persuadée que si je désirais suffisamment quelque chose, ça pouvait arriver. Sauf que c'est pas vrai, sinon ça ferait longtemps que Mélenchon serait au pouvoir. Moi parfois je veux des trucs mais je peux pas. Par exemple voler, je veux mais je peux pas. Marcher sur la lune, garder une plante verte vivante, voilà. Aimer le pamplemousse, je veux mais j'arrive pas. Mais là je pense qu'il y a une explication, c'est parce que quand on le met dans la bouche ça fait... C'est pour ça. Avoir un enfant, je veux très fort mais pour l'instant ça ne marche pas. Et d'ailleurs j'espère sincèrement qu'un enfant, c'est très différent d'une plante verte. Parler avec des dauphins, voilà, je veux mais je peux pas. Je peux pas mais en vrai ça serait trop bien. Je leur demanderais des trucs du genre ce qui veut dire hey, qu'est-ce qui te fait flipper le dauphin? Flipper le dauphin? Faire des jeux de mots modernes et percutants, c'est aussi visiblement je veux mais je peux pas. Séduire Kate Winslet, je veux mais je peux pas. Séduire Quentin lui, je peux mais je veux pas. Briser le plafond de verre, je veux, mais le patriarcat ne veut pas. Parce que finalement, le patriarcat, c'est un petit peu comme le pamplemousse. Avoir un rendez-vous chez un dermato pour vérifier mes grains de beauté, je veux, mais en ce moment, je peux pas. Ils prennent que des rendez-vous pour du laser et franchement, c'est relou. Ouais, pourtant, j'ai appelé beaucoup de docteurs. Hein. Après, je devrais peut-être y aller pour le laser. Hein. L'autre jour, il y a un mec qui a commenté ma chronique sur YouTube en disant « Sympa, mais plus rouge qu'elle, c'est le logo France Inter. » Prendre votre place, Mathieu. Je veux, mais je... Non, je rigole. Je peux. Bah, la preuve, je l'ai montré il y a deux minutes. Hein. Non, je veux, mais je veux pas, rassurez-vous. Non, je veux la place de Nagui. Il est riche, Nagui. Quand j'aurai la place de Nagui et que je danserai le jerk sur le plafond de verre, je vous engagerai, Mathieu. Non, vous, normal, vous méritez. Hein. D'ailleurs, en France, on a cette idée que si on a quelque chose, c'est parce qu'on l'a forcément mérité. Sauf que c'est faux. Moi, quand je suis venue dans ma classe, avec ma classe de seconde en 2002, voir l'enregistrement du Fou du Roi, eh ben, je me suis dit qu'un jour, moi aussi, je ferai des chroniques à France Inter. Alors, j'ai travaillé dur pour avoir la chance d'écrire dans cette émission des chroniques sur des tas de thèmes trop chelous. Ouais, bah, rigolez pas trop, ma prochaine, c'est quand même l'hyper-parentalité. Mais j'ai réalisé que si je suis là, c'est pas uniquement parce que je l'ai voulu ou que je l'ai mérité ou que Manon est malade. Non, il y a certaines choses qui ont facilité mon parcours. J'ai été à l'école, je suis blanche et valide, j'ai un métier que j'aime et que j'ai choisi, mes parents m'ont toujours soutenue. J'ai pas été rejetée quand j'ai dit que j'étais lesbienne, même si ça a été chaud quand j'ai dû leur annoncer que j'aimais pas le pamplemousse. J'ai pas de problème de santé, à part évidemment mes problèmes dermatologiques, c'est vraiment pas de peau. Puis bien sûr, il y a ces petits problèmes de jeu de mots. Alors je dis pas que je l'ai pas mérité hein, d'être là, me virez pas hein, Mathieu. Je dis juste que tout ça, c'est entré en compte dans mon facteur chance. Alors Mathieu, désormais, je ne dirai plus quand on veut, on peut, mais quand on peut, on peut. Et courage à tous ceux qui veulent.
Merci beaucoup Marine Baousson. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom avec l'hyperparentalité, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Je vous souhaite bonne chance pour ça.
Merci, hein. Merci beaucoup.
Et je signale à vos fans en délire que vous serez le 30 mars à Cornebarieux, c'est près de Toulouse, puis à la Nouvelle Scène à Paris tous les mardis du mois d'avril.
Oui, c'est ça.
David Guilbeault, merci de nous avoir exposé les limites du concept de méritocratie. Nombreuses limites, on l'a vu.
Merci.
On a dit que le jeu méritocratique était faussé dès le début de la vie. On n'a peut-être pas insisté sur à quel point c'était tôt dans la vie. Dans la conclusion du livre, vous dites les différences d'origine sociale trouve à s'exercer tout au long du parcours scolaire, de la maternelle jusqu'à l'obtention du diplôme. De la maternelle, qu'est-ce qui se passe à la maternelle?
C'est pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est dès l'acquisition du langage, dès le développement de ses premières compétences qui sont la maîtrise du langage et puis bientôt la lecture, etc. Les inégalités de développement et de contexte familial déjà se font sentir et ensuite c'est cumulatif.
Eh bien, merci encore, David. Je rappelle votre livre, L'illusion méritocratique, chez Odile Jacob. Merci à tous, Marine Bausson, Cyril Lacarrière, Quentin Lhuy, Vincent Désière était à la technique, Étienne Bertin à la réalisation, puisqu'on le salue, notre réalisateur historique Ghislain Fontana est, au moment où je vous parle, à la maternité, puisque Mini Fontana, à qui il a finalement été donné un vrai prénom, Paula Fontana, est née la nuit dernière. Bravo, Quentin, 3 secondes de Pascal Obispo.
Ah ouais, mais 3 secondes, ouais. Tu m'en millésime.
C'est dur.
Ma plus belle année.
C'est Fogiel.
Je suis à jamais ta tête. Note de tête,
joliment tenue.
C'est ça, être père.
Oh, c'est magnifique. Quel plus beau cadeau pouvait-il imaginer. Zoom Zoom Zen revient demain vers 16h. Bah, pas vers 16h d'ailleurs, à 16h précisément. On parlera des boomers. Qui sont-ils? Alors, il y a Sardou, il y a Cyril Lacarrière, bien sûr. Mais encore, sont-ils vraiment responsables de tous les maux de notre société? Je vous dis à demain. Et j'accueille avec toujours la même émotion, je dois dire, surtout sur cette musique de Bispo, cette chère Charline Van Hennecker. Bonjour Charline.
Bonjour Mathieu Noël. De chanteur, il en est question.
Ah, oui.
Et oui. Un chanteur délicieux, on le mangerait. Il s'appelle Voyou.
Ah, Voyou.
Bah oui, vous le connaissez.
Et je connais.
Il tourne sur la playlist.
Effectivement. Ah, c'est pour ça que je le connais.
Il sera là et il nous propose même un titre en live.
Un titre en live pour Voyou. À tout de suite avec Charline et sa bande.